Bonjour et bienvenue à l'Université de l'Épargne, anciennement Institut des Libertés. Oui, en effet, vous avez dû voir que nous avons subi ce petit changement pour plein de raisons. Une d'entre elles est qu'il est difficile d'avoir trois marques en même temps. Il était difficile d'avoir Charles Gave, Institut des Libertés et l'Université de l'Épargne conjointement, les trois. Donc on a préféré migrer l'Institut des Libertés dans l'Université de l'Épargne pour aujourd'hui avoir l'Université de l'Épargne qui sera en partie non payante, donc là où vous nous écoutez sur YouTube, et la partie payante sur laquelle vous pouvez accéder, qui est donc un univers où on vous apprend la gestion et on vous apprend à gérer un portefeuille de façon en bon père de famille, on dira.
En bon père de famille. Et l'idée, c'est une fois encore, j'essaie de l'expliquer, c'est que la plupart des gens pensent que la bourse, c'est de faire des coups et de gérer un compte d'exploitation. J'ai gagné de l'argent, j'en ai perdu sur ce titre, j'en ai vendu, voilà. Non, ce qu'on essaie de vous apprendre, c'est à gérer votre bilan. Ce bilan vous permettra, si vous le faites monter sagement, d'avoir une retraite convenable à la fin. Donc, encore une fois, pour ne rien vous cacher, il y a quelqu'un qui nous a demandé des conseils, qui était l'ancienne patronne d'une très grande banque, pour tout ce qui était la gestion. Elle nous a regardé, on lui a donné des conseils et tout. Elle nous a dit, c'est bien votre truc, là, mais on s'amuse pas du tout. Donc, si vous voulez, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour vous bâtir un patrimoine qui va vous permettre de prendre votre retraite. Et c'est quand même la chose la plus importante. Donc, c'est pas amusant, on fait pas des coups en bourse, on n'achète pas des valeurs à l'introduction. On essaye de vous bâtir un patrimoine.
Voilà. Et donc, dans cette idée, dans l'idée de bâtir un patrimoine, une des choses qui s'avère nécessaire la plupart du temps, c'est d'essayer de comprendre la période dans laquelle nous sommes. Et parmi les outils que Charles a développés au cours de sa vie et qui existent en gestion, il y a quelque chose dont on vous a souvent parlé, qu'on appelle les quatre cadrans. Alors, la méthode dite des quatre cadrans en allocation d'actifs repose sur l'observation que les actifs financiers réagissent principalement à deux grands facteurs économiques qui sont l'évolution de la croissance, qu'on va mettre sur une courbe, et l'évolution de l'inflation, qu'on va mettre sur une autre. Ainsi, vous vous retrouvez avec une abscisse, une ordonnée, que sont croissance versus inflation. Ce qui va vous donner quatre carrés qui sont égaux, dans lesquels vous allez avoir une croissance inflationniste, une croissance déflationniste, une récession inflationniste, une récession déflationniste. Voici les quatre scénarios dans lesquels vous pouvez vous trouver, sachant qu'à un instant donné, évidemment, la France peut se retrouver en récession inflationniste et la Chine, elle, se retrouver en croissance inflationniste, par exemple. Mais en tout cas, pour l'endroit où se situe votre épargne, il est important de savoir dans laquelle de ces quatre situations vous vous trouvez, parce que l'allocation d'actifs, ce qui est ce qu'on essaie de faire, va dépendre de la période et du cadran dans lequel vous vous trouvez.
Exactement. Donc, les quatre cadrans, c'est très important, parce que peut-être tu allais le dire, mais à chaque cadran correspond à un actif qui fera bien dans ce cadran. C'est-à-dire que quand vous êtes en bas à droite, c'est-à-dire croissance sans inflation, à ce moment-là, c'est les actions qui marchent très bien.
Voilà, quand vous êtes donc ce qu'on appelle en boom déflationniste, vous devez avoir ce qu'on appelle des valeurs d'efficacité.
D'efficacité, c'est-à-dire que ça peut être souvent les valeurs de technologie, parce que c'est elles qui sont quand même le plus les inventions, en quelque sorte. Voilà, donc vous avez ça. Et puis quand vous êtes en haut, quand vous avez une croissance inflationniste, à ce moment-là, vous vous dites, bon ben, c'est embêtant, mais il vaut mieux peut-être, puisque la monnaie commence à perdre de sa valeur, je vais peut-être me mettre en or. Puis quand tu passes à gauche dans la récession inflationniste, à ce moment-là, c'est vraiment, si j'ose dire, c'est de loin le cadran le plus désagréable, ben, il faut avoir du cash dans une monnaie sérieuse. J'ai toujours tendance à penser, je me dis, une monnaie sérieuse, et hop, je vois les gnomes de Zurich, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le franc suisse souvent. Et puis quand vous êtes en bas à gauche, dans la déflation-dépression, là, il faut avoir que des obligations d'État. Donc, à chacun d'entre eux, vous avez un actif qui correspond à ces quatre cadrans. Et contrairement à ce que pensent la plupart des gens, l'idée de base, quand vous gérez de l'argent, c'est pas de savoir ce que vous allez mettre dedans, mais de savoir ce que vous n'allez pas avoir. C'est-à-dire que moi, je appelle ça, la plupart des gens, quand ils font de la gestion, ils appellent ça la gestion par inclusion. C'est-à-dire, si je mets que des bonnes choses dans mon portefeuille, j'aurai un bon portefeuille. Pas vrai du tout. Nous, on pratique beaucoup la gestion par exclusion, c'est-à-dire dans ces quatre classes d'actifs, actions, obligations, or et cash. La plupart du temps, il y en a un, parfois deux, dont on sait, compte tenu de ce qui se passe, qu'ils vont pas bien marcher. Donc, on a toujours dans nos portefeuilles, en général, trois actifs, parfois que deux, parce que c'est beaucoup plus facile de savoir ce qui va baisser que ce qui va monter. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc c'est, on gère comme certains parient sur les chevaux, c'est-à-dire que c'est pas de savoir qui va gagner, c'est que vous savez qu'il y a 3-4 chevaux qui n'ont pas une chance, donc vous les éliminez et puis vous pariez sur le reste. Et c'est comme ça que vous battez les parieurs à tous les coups. Donc encore une fois, le travail de la gestion, c'est surtout d'éviter les immenses gamelles. C'est ça le...
Alors, pour essayer de savoir dans lequel de ces cadrans on se trouve, encore une fois, entre croissance et inflation, il y a des outils de calcul qui permettent de se repérer. Parmi ces outils de calcul pour savoir si on est à droite ou à gauche du cadran, c'est assez simple, il faut prédire la croissance.
Il faut prédire la croissance. Et alors là, c'est là où on a... Alors, vous vous imaginez pas, ce qu'on vous explique aujourd'hui, ça a l'air assez simple, mais j'ai mis 40 ans à arriver à tout ça, parce que au début, je me disais, bon, est-ce qu'il y a croissance ou pas ? J'ai commencé à réfléchir là-dessus en 1978, c'est pour vous dire que c'est pas récent. Et je prenais les chiffres officiels de la croissance, la production industrielle, le PIB et tout, et puis les chiffres étaient révisés, puis c'était manipulé, puis enfin j'ai cherché. Et finalement, on est arrivé à une idée qui marche bien, c'est l'économie, c'est de l'énergie transformée. J'ai dû vous dire ça 25 000 fois depuis que vous m'écoutez. Donc l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, vous vous dites, bon, alors, si on transforme de l'énergie, il y a de l'énergie qui rentre dans le système, qui a un prix. C'est le prix du baril de pétrole, par exemple. Non, et donc ça, c'est le prix. Et puis on la transfère en produits. Et ces produits, ils vont être faits par des sociétés qui sont cotées en bourse. Donc vous faites le ratio entre la transformation énergétique, les cours de bourse, enfin le cours de l'indice, quoi, que vous divisez par le prix du pétrole. Si les sociétés transforment de l'énergie de façon rentable, ce ratio va monter. Et s'ils transforment de façon non rentable, ce ratio va baisser.
Donc, dans un monde où on parle avec des chiffres, ça veut dire que vous prenez le ratio de ce qu'on appelle le WTI.
Le S&P sur le WTI. Vous faites une moyenne longue, 7 ans.
7 ans. Et on regarde donc si le système capitaliste que vous êtes en train d'évaluer transforme ou non l'énergie de manière rentable. Et ça va vous donner un indicateur. Et
ça vous dira si vous êtes à gauche ou à droite.
Ou à gauche ou à droite. Voilà.
Et donc... Ça, c'est le premier point.
Ça, c'est pour prédire la croissance.
C'est pas pour prédire, parce qu'on prédit rien du tout.
C'est pour prédire, constater. C'est pour envisager.
C'est pour constater qu'on est en croissance ou pas.
Voilà. Pour
parce qu'on prédit rien
ressentir.
Du tout,
et pour regarder ce qu'il en est du côté de l'inflation, on regarde le prix de l'or sur celui des obligations à long terme.
Alors, ben voilà. Alors l'or, c'est quand vous avez des États qui gèrent leur monnaie comme des salopios, l'or monte. Donc, vous avez, et là, il faut s'attacher à la notion qui est importante de réserve de valeur. On est tous des petites fourmis, des bons petits écureuils. On aime bien avoir des produits dans lesquels mettre notre épargne si la vie devenait un peu plus difficile plus tard, quoi, ou pour préparer sa retraite. Donc, vous, comme réserve de valeur, vous en avez deux qui vous sont fournies. Une qui est offerte par l'État, les obligations de l'État. Et l'autre qui est celle qui, si vous ne croyez pas du tout votre état, c'est l'or. Donc vous en avez une qui est d'origine étatique et une qui est quand vous n'avez plus confiance dans l'état, l'or. Et donc ce que vous faites, encore une fois, vous faites le ratio or sur le rendement des obligations d'État, la valeur de votre portefeuille en obligations d'État, s'il monte, ça veut dire que les gens ont plus confiance dans la monnaie. Qu'ils sortent de la valeur réserve de valeur créée par l'État pour se mettre dans la valeur de la réserve de valeur éternelle, l'or. Et donc, à ce moment-là, tu fais aussi une moyenne à 7 ans et tu te permets très bien de discerner les moments où le marché bascule. J'ai confiance dans les obligations. C'était de 1980 à peu près jusqu'à quasiment 2020. Donc, ça a duré quand même longtemps, 40 ans, où il fallait pas avoir d'or. Et puis, de l'autre côté, le moment où il fallait avoir de l'or, c'était dans les années 70 et maintenant. Donc, ça vous donne... Vous avez, et là, ce que j'aime beaucoup avec ces deux mesures qu'on a mis au point, c'est que ça peut pas être manipulé. C'est des mesures de marché, tu vois ce que je veux dire. C'est, il y a des millions de gens qui te donnent le cours de l'obligation, qui te donnent le cours de l'or. C'est pas 3 crétins ou 7 crétins dans une pièce, dans la banque centrale, qui décident que le prix est ceci ou le prix est cela. C'est des mesures de marché. C'est-à-dire que c'est comme une démocratie par rapport au sondage d'opinion, quoi. Et donc, je me retrouve donc avec 4 cadrans. Et maintenant, pour la première fois, on est arrivé à ça il y a 2-3 ans. C'est pour vous dire qu'on a cherché longtemps. On est satisfait de la façon où ça rompt les périodes. On voit très bien les moments où on passe de l'un à l'autre, ce qui aide beaucoup dans la gestion de portefeuille.
Donc, en réalité, la règle est assez simple. Si l'or surpasse les obligations d'État sur une période de 7 ans, alors nous sommes en période inflationniste.
Inflationniste, il n'y a pas de problème, on ne se pose pas de questions.
Donc si l'indice du S&P 500 surpasse les coûts d'exploitation, l'économie traverse une période de croissance et le capitalisme fonctionne. Voilà les deux règles.
L'absolument essentielle, et ça vous aide. Et surtout, d'abord, avec une moyenne à 7 ans, ça change pas toutes les 5 minutes. Hein. On attrape les grands renversements assez bien. Alors, on a fait des tas de tests statistiques pour savoir ce qu'il y avait de mieux. 6 ans, 5 ans, ça marche aussi, mais vous avez plus de faux signaux. C'est-à-dire que j'ai essayé de sélectionner le truc où, finalement, vous avez eu quasiment aucun faux signal sur les 100 dernières années, parce qu'on est remonté sur 100 ans.
Donc, aujourd'hui, on a un défi qui est assez simple. Oui. En mars-avril, le cadre indiquait un effondrement inflationniste.
C'est-à-dire, il nous disait, attention, on est peut-être en train de rentrer dans la partie en haut à gauche.
Récession inflationniste.
Récession inflationniste.
Et là, qui demande le cash dans la meilleure monnaie. Et cependant, là, en mai, avec la hausse du marché boursier et la baisse du cours du pétrole, grâce à la réouverture potentielle du détroit d'Hormuz qui n'en finit pas d'être ouvert, fermé, ouvert, fermé, on est revenu potentiellement à un boom inflationniste, c'est-à-dire toujours hors valeur de rareté.
On avait été depuis à peu près 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on était dans un boom inflationniste.
C'est-à-dire que, en gros, depuis 3 ans, on oscille. Dans le haut.
Non, pas depuis 3 ans. On est en train d'arriver. Pendant 3 ans, on a été tout à fait à droite.
Tout à fait à droite.
Et maintenant, on semble qu'on soit en train de glisser vers la gauche.
Voilà.
Et qu'on soit à la frontière entre les deux.
Donc, soit vers la croissance inflationniste, soit vers le crack inflationniste.
Et ça dépendra beaucoup du prix du pétrole et des marchés dans les semaines qui viennent.
Alors, enfin, oui. Si le monde venait à entrer dans cette zone rouge d'effondrement inflationniste,
alors de récession
inflationniste, dans l'éventualité où le prix du baril resterait à $90 le baril.
On est à 78 ou quelque chose comme ça aujourd'hui.
Alors, on entrerait bien dans une récession inflationniste.
Et à ce moment-là, c'est sauf qui peut. Hein.
Alors, les obligations à long terme. Déjà, les obligations sont les premières qui prennent en cas de guerre. Elles prennent une deuxième gamelle. Et les actions de croissance sont généralement aussi, dans l'histoire, les secteurs où on perd le plus d'argent.
C'est-à-dire, quand vous êtes en haut à gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bénéfices baissent, enfin, puisqu'on ne réussit plus à transformer l'énergie de façon rentable, et que les prix montent. Alors, les bénéfices qui baissent, c'est jamais une bonne nouvelle pour les actions. Et puis, l'inflation qui monte, c'est pas une bonne nouvelle, parce que vous savez, vous avez ce qu'on appelle le multiple court bénéfice, qui est dans le fond le nombre d'années que vous achetez les bénéfices. Quand il n'y a pas d'inflation, les gens achètent les bénéfices des 20 années qui viennent. S'il y a de l'inflation, comme ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe, ils raccourcissent. Donc, ils achèteront à 15 fois les bénéfices, puis à 10 fois. Et en bas des marchés baissiers les plus féroces, tu peux être à 5 fois les bénéfices. Donc à ce moment-là, tu peux avoir tes actions qui vont baisser des 3/4 en ayant les mêmes bénéfices qu'avant.
Ouais.
C'est-à-dire que d'un seul coup, plus personne croit à la croissance, c'est fini, quoi. Donc tu te retrouves dans un monde où ça devient très dangereux d'avoir ce qu'on appelle de la duration, c'est-à-dire d'acheter le futur très cher. Donc il faut essayer de raccourcir la duration autant que tu peux, et raccourcir la duration, ça veut souvent dire avoir des valeurs qui te donnent du 5, 6, 7% de dividendes et qui sont bien gérées. Par exemple, aujourd'hui, je crois que, je sais pas si c'est vrai, mais je n'ai pas vérifié, mais je crois que Nestlé donne du 5% de dividendes en France suisse. Mmh. Bon, bah, tu te dis, il vaut mieux avoir ça que SpaceX. à 100 fois le chiffre d'affaires.
Je ne sais pas quelle est l'inflation en Suisse, mais au réel, ça doit... Oui. Mmh.
Zéro, donc ça te donne... C'est beaucoup plus que les obligations suisses qui te donnent du 1%.
Oui.
Donc tu vois ce que veut dire 5%. 5% sur Nestlé, tu te dis, bon... Je touche mes 5% en France, je ne suis pas plus... Donc, je veux dire par là, c'est que le jeu de la gestion, c'est un peu comme tu es dans un tunnel du temps, et puis d'un seul coup, tu vois le tunnel, tu vois 20 ans devant toi, donc tu peux prendre des risques, là, tu vois bien. Puis d'un seul coup, tu vois plus que 3 ou 4 ans. Et donc, automatiquement, tu dois ramener tes positions à un endroit où, puisque tu n'as plus la même vision dans le temps, tu es obligé, quoi. Et si toi, tu ne le fais pas, le marché le fera pour toi. Donc, il est possible que nous rentrions. C'est pas encore certain, parce que je vous dis qu'on oscille, on est à la frontière en ce moment. Hein. Mais si on passe en haut à gauche...
D'après tous les calculs savants.
D'après tous les calculs savants qui sont pas très savants, puisqu'on prend ces deux trucs-là, ça va devenir difficile. Alors, on a essayé de bâtir dans l'université de l'épargne, pour ceux qui sont des étudiants, là, on a essayé de bâtir un portefeuille qui prête déjà en compte ça, parce que pour toute une série de raisons, et on espère qu'il tiendra le coup. Mais ça risque, si on passe en haut à gauche, ça risque de devenir très difficile. Et c'est là que les grands marchés baissiers, ce que j'appelle les Ursus Magnus, vous avez les très gros ours, parce que vous avez les petits ours qui vous font baisser de 15-20%, bon, ils vous mettent une claque, vous êtes un peu abîmé, mais pas trop, quoi.
Mais quand tu perds 45% de ton portefeuille...
50, 60, 75, 80, en termes réels, en l'espace de 2-3 ans, il te faut du temps avant de revenir à l'étiage, hein, tu vois, et c'est ça qui est horrible. Donc, et ce que disait Warren Buffett, qui est un être... il disait, les grands marchés baissiers... c'est le moment où le capital retourne à son propriétaire légitime. C'est-à-dire ceux qui font le travail, qui ont le temps, comme lui l'a toujours fait. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire à l'Université de l'Épargne, c'est à devenir des propriétaires légitimes, que vous soyez des propriétaires légitimes, des choses que vous avez, et que vous ne soyez pas massacrés par quelque chose qui se passera, qui est en dehors de votre contrôle. Donc, mais honnêtement, je suis pas du tout catastrophiste, parce que tout ça n'est pas très grave, s'il n'y a pas mort d'homme, mais il pourrait y en avoir d'ailleurs, si les gens sautent par la fenêtre. Mais il est possible que nous rentrions, ce qui serait d'ailleurs assez normal, compte tenu de toutes les bêtises économiques qu'on a faites depuis des années. Quoi. C'est,
Et donc, en général, quand on arrive dans ce genre d'Ursus Magnus, ça a toujours été déclenché dans l'histoire par une hausse du prix de l'énergie.
Depuis 1945. Avant ça, ça pouvait être déclenché par une baisse des prix très profonde qui créait une crise de liquidité en haut à gauche et qui ensuite se terminait en déflation-dépression, tu vois, en bas à gauche.
Donc, c'était quand on était dans un régime de Bretton Woods.
Et où il y avait l'or.
Où il y avait l'or et
on était tenu
pays,
par l'or.
Voilà.
On pouvait pas aller en inflation durable.
Voilà. Et quand on lance le franc Poincaré ou des choses comme ça, forcément, ça fait une contraction monétaire sur l'Allemagne. Et ainsi de suite. Donc, il y avait des sortes de mouvements.
Parce que
les banques centrales décidaient qu'il fallait absolument garder l'or. Du coup, il n'y avait plus assez pour tout le monde. Et du coup,
on rentrait dans des jeux, si vous voulez. On faisait ce qu'on appelait des dévaluations compétitives qui permettaient de faire porter le schmilblick au pays d'à côté, tu vois.
Et ça avait commencé parce que l'Angleterre avait fait un truc sur la livre aussi.
L'Angleterre, elle avait réévalué la livre, donc ils en ont pris plein la gueule parce que tout le monde a vendu en Angleterre et l'Angleterre ne vendait plus rien. Ça, c'était Churchill qui avait fait ça. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs faites dans les années 30, 25-30 dans l'Europe. Et alors, depuis, les banques centrales ont décidé qu'il fallait éviter à tout prix la dépression déflationniste, c'est-à-dire ce qu'on bat à gauche. C'est-à-dire que dès que quelqu'un un épée de travers, si j'ose dire, il faut imprimer.
Alors, non seulement ça, et aussi...
Il faut payer le gouvernement pour qu'il dépense de l'argent.
Ils font aussi autre chose, c'est qu'ils font bien, bien attention à ne rien, à faire en sorte que leurs obligations d'État ne valent plus que pouic. Parce qu'aujourd'hui, pour se mettre en obligation d'État française, il faut vraiment être obligé. Quoi.
Mais il faut vraiment être obligé. Vous avez parfois, et il y a beaucoup de gens qui le sont, quoi.
Bah,
les
bien
banques,
sûr,
les compagnies d'assurance.
Mais bien sûr, et c'est un vrai souci. Mais en attendant, pendant toutes ces années de tricher et compagnie, on a eu des taux négatifs. Donc ça veut dire que
tricher, il avait mis des taux trop élevés.
Trop élevés.
Après. Mais c'était après que c'est à partir du moment où l'euro a sauté, c'est Monsieur Draghi qui a décidé de mettre les taux à zéro.
Whatever it takes.
Parce que comme Trichet avait mis les taux trop hauts, tout le monde a sauté. Et donc ça amène un nombre de bêtises considérables. Mais j'en discutais avec Didier qui est allé voir quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait à Zurich, imaginez-vous, la capitale des gnomes, là, qui est une banque cantonale, enfin de très bonne qualité. Et j'ai appris avec stupéfaction que cette banque cantonale avait des réserves en or considérables. C'est-à-dire qu'ils ont des obligations en francs suisses, bien entendu, parce que il y a quasiment pas de déficit budgétaire, donc c'est une très bonne. Mais ce qui est étonnant, c'est que donc le système bancaire suisse, apparemment, les banques commerciales ont des réserves en or, en plus des réserves qu'on leur demande.
Je trouve ça normal, non ?
Ben oui, mais nous, on a zéro réserve en or. Le traditionnel, il a zéro. Là, il a montré à Didier, le responsable, il a montré l'endroit où il y avait l'aurore. Tu vois, ce qui était...
Parce que tu nous racontais toujours cette histoire de, je sais plus, c'était JP Morgan ou ainsi de suite.
Qui avait fait montrer l'or, ça, c'était en 1907, qui avait dit qu'il y avait une panique
une
bancaire.
Première panique, parce qu'on se souvient qu'avant la grande crise de 29, les années 20, 10 ont été émaillées de mini-crises monétaires.
Le 1907, c'était pas voilà. Enfin, c'était solide. Et ce qui se passait, c'est que d'un seul coup, les gens se disaient, vous savez, la banque, ça marche.
Tant que la confiance est là.
Si tout le monde demande pas son fric en même temps, si tout le monde demande son fric en même temps, à ce moment-là, quand vous avez prêté 5 ou 10 fois vos réserves, vous êtes cuit. Donc, ce qu'avait fait JP Morgan, c'est qu'il avait dit, bon, il avait donné l'ordre à toutes les banques, il avait agi un peu que la banque centrale qui n'existait pas, il avait dit, vous mettez l'or sur les comptoirs, pour que quand les gens arrivent, ils puissent avoir leur or tout de suite. Si vous dites, non, votre or, vous l'aurez demain...
Ils vont paniquer.
Est-ce que si vous leur dites, le voilà, vous le prenez, vous vous en allez? Et donc, ça avait calmé la panique. Donc, c'est une vieille blague que je raconte toujours, mais quand j'étais à Londres il y a quelques années, j'avais reçu un coup de téléphone d'un de mes copains à Hong Kong qui me dit il y a une crise bancaire à Hong Kong, il y a des gens qui font la queue devant je sais pas quelle banque. Alors j'avais dit, ah bon, ça, j'ai une première nouvelle et tout. Et c'est simplement parce qu'il pleuvait et qu'il y avait un truc pour...
Un auvent
pour protéger. Donc il y avait une énorme queue devant la banque et tout le monde disait, ça y est, la crise bancaire a commencé. Donc les crises bancaires peuvent commencer pour des raisons complètement idiotes. Hein. Mais quand la panique saute... Donc encore une fois, dans les années 30, j'ai essayé de faire un résumé, on a souffert parce que la politique nous a amenés en bas à gauche, c'est-à-dire dans une dépression déflationniste avec des prix qui baissaient parce que les banques centrales étaient incompétentes. Bref. Et du coup, les banques centrales ont décidé qu'elles ne le feraient plus jamais. Donc elles imprimeraient toujours de l'argent dès qu'il y a un problème. Ce qui nous amène automatiquement... À la limite, c'est pas les actions qui vont se péter la gueule, c'est les obligations et la monnaie qui vaudront plus rien.
Non,
tu vois ce que je veux dire? C'est symétrique.
Non, mais
hein.
Je pense que si vous nous suivez, ça fait quand même assez longtemps qu'on vous parle d'une crise des obligations. On en a parlé tout l'hiver. Et c'est quand même effectivement pend au nez d'absolument tous nos systèmes.
C'est-à-dire qu'il y a deux choses dans une obligation. Vous avez le rendement, c'est-à-dire le loyer qu'on vous paye pour que vous prêtiez votre argent. Tu vois, c'est comme vous avez loué votre appartement, vous touchez un loyer, mais là vous avez donné votre argent à quelqu'un, il vous paye un loyer. Ça, c'est le return, comme on dit en anglais, on capital. Et puis, une fois, mettons que ce soit après 10 ans, au bout de 10 ans, il faut rembourser le capital. Et ça s'appelle le return of capital, le retour du capital. Et là où j'ai les problèmes les plus graves aujourd'hui, c'est quand je regarde les chiffres de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, je ne vois pas comment ils pourraient faire ce repaiement du capital. Tu vois, c'est-à-dire, c'est c'est plus que les taux vont monter, qui est le problème, parce qu'ils vont monter, c'est évident, mais c'est le fait que ils seront bien incapables de rembourser le capital qu'un jour. Donc, ce qui me fait de la trouille, c'est que vous allez vous retrouver avec... On viendra chercher votre argent dans votre compte pour financer le déficit budgétaire français, quoi. Donc, y a, c'est la monnaie elle-même qui risque de disparaître.
Alors... J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé avant ces grandes introductions en bourse et sur une idée un petit peu répandue que le marché américain aurait été performant. Mmh. En réalité, si on regarde, le marché américain, le marché boursier a progressé, mais ça a été pendant un moment, quand même, là, ces dernières années, un marché qui a eu une performance, une sous-performance relative par rapport à d'autres marchés boursiers, et spécialement...
Ce qui se passe, c'est que aux États-Unis, vous avez eu très peu de secteurs qui ont fait des performances extraordinairement brillantes.
Voilà.
Et donc, le semi-conducteur, l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Alors, il est possible que ce soit des secteurs d'avenir très importants et tout. Mais moi, je préfère, quand j'investis, être dans un marché où 80% des valeurs montent de 10%, puis il y en a 20% qui font rien, ce qui me fait 8%, que dans un train de marché où il y a 10% des valeurs qui font 80%, tu vois, voilà. Parce que c'est quand même pas du tout la même chose. Donc, moi, j'aime pas du tout les marchés où la performance est concentrée sur très peu de secteurs, parce que c'est ce qu'on appelle des bulles, et en général, y a pas moyen de déterminer le prix, tu vois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est des phénomènes de masse, tout le monde se dit... Je peux pas rater cette hausse. Ça se terminera mal, quoi. Moi, j'aime les hausses qui montent doucement avec tout le monde qui gagne de l'argent. Et ça arrive en bas à droite, en général, pas ailleurs.
Et pour ceux qui nous suivent à l'Université de l'Épargne, on vous avait proposé de regarder les valeurs énergétiques, et c'est aussi pratiquement ça a été les meilleures performances, meilleures que les valeurs technologiques, et c'est le deuxième secteur le plus performant du S&P 500
depuis 4-5 ans.
C'est-à-dire
que comme la plupart des grandes hausses se terminent avec le prix de l'énergie qui devient trop cher, ce que j'ai toujours recommandé, c'est il faut avoir pas mal de valeurs énergétiques dans son portefeuille de façon à vous prémunir contre le risque. Parce que quand vous êtes dans une période justement de inflation sans croissance, c'est parce que l'énergie est trop chère. Si l'énergie est trop chère, en général, c'est une bonne nouvelle pour Total. Tu vois ce que je veux dire? Donc automatiquement, à ce moment-là, ceux qui ont du Total, ils se portent bien. Donc dans la mesure où tu veux réduire la duration, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les valeurs pétrolières qui offrent des gros dividendes sont des valeurs à duration réduite aussi. Donc elles ont un double mérite. Un, elles te protègent contre le prix du pétrole qui monte. Et deux, elles te donnent un bon dividende, quoi. C'est pas mal. Un truc comme Exxon, je crois qu'il avait tout autour de 4%. C'est un peu comme les 5% sur Nestlé. C'est mieux que les obligations, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est assez facile à jouer parce que vous avez ce qu'on appelle des ETF.
Oui, bah oui.
Alors, par exemple, dans les comptes de l'Université de l'Épargne, on a dit aux gens, vous prenez 25% d'un ETF énergie fossile. Bon, alors c'est pas... Monsieur Attali ne sera pas d'accord avec moi, mais enfin, ça fait rien. Pourquoi il a... Il trouverait que tous les mecs de 70 ans, on devait les...
Les euthanasier. Qui devaient s'auto-euthanasier pour le bien de l'humanité.
Et lui, il a 83 ans, il nous emmerde toujours. Enfin, bref.
Non, alors, c'est pas le tout qu'ils sont encore en vie, à la rigueur, soit. Mais c'est qu'ils nous gratifient dans le point et autres trucs de ses grands avis non sollicités, alors qu'il a eu tort absolument partout, tout le temps. Oui. Et on continue à l'énifier et à l'avoir sage.
Alors maintenant, il essaye de nous expliquer comment il fera, puisqu'il est vieux. Comment il faut arriver à une vieillesse heureuse et tout, mais... je veux dire, il y a quand même...
À chaque fois, ça me fait penser... Alors, c'était ce que disait le regretté Jean-François Revel à l'époque sur Alain Minc, mais ça pourrait s'adapter à M. Voilà. Attali. Il dit il existe deux recettes absolument fondamentales pour être un intellectuel en France. L'une est de ne se tromper jamais, et c'est celle qu'aura choisi Raymond Aron. Et l'autre est de se tromper toujours, et c'est celle qu'aura suivi... à la Minc. Et je crois qu'on peut inclure en cela Attali, qui aussi nous a...
Oui, et qui nous explique que le monde, le monde qu'il décrit est le monde réel, alors que c'est par définition un monde irréel, c'est-à-dire que c'est la globalisation, c'est le gouvernement mondial, c'est tous ces trucs-là, qui n'ont rien à voir avec le public, parce que les gens veulent faire, c'est de gouverner par le gars qui boivent la même eau qu'eux, comme dirait ce brave Nassim Taleb. Donc, ce qui est certain, c'est que lui, il ne doit pas boire que de l'eau, mais...
Alors, donc on a parlé de la récession inflationniste. J'aimerais qu'on réfléchisse en cas de boom inflationniste, puisqu'on est...
Alors, sur le boom inflationniste...
Attends, je voudrais dire un truc. Fait. C'est là où je voudrais qu'on reparle de l'or. Et potentiellement aussi de l'argent et peut-être du cuivre. Parce que si on se retrouve en boom inflationniste, les métaux, en général, se portent très bien.
Mais si on est dans un boom inflationniste, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous devez avoir deux choses, des actions et de l'or. Alors, l'or a baissé parce qu'il s'est dit « Ouh là là, on va passer en haut à gauche ». Et à ce moment-là, il a plus
alors,
de mal.
L'or a baissé non seulement pour ça, mais aussi, et on l'a dit dans la semaine dernière, c'est que les États-Unis, pour tenir leur dollar, ont vendu de l'or et ont vendu du pétrole.
On a dit du pétrole, de l'or, c'est pas sûr, c'est du pétrole certainement.
Si, on l'a vu au crédit de l'Arabie Saoudite et on l'a vu au crédit de la Chine.
Oui, alors là, attention, parce que c'est pas les États-Unis qui ont vendu, c'est sans doute des citoyens américains. C'est pas sorti des réserves d'or de la Banque centrale américaine qui sont intouchables. Donc, on a très bien vu qu'en effet...
Non, effectivement, tu as raison, c'était pour souscrire...
L'Arabie Saoudite a dû vendre...
Non, a acheté de l'or américain, parce que les Américains sont délestés.
Non, c'est les Chinois qui ont fait ça. C'est les Chinois qui ont pris... Ils avaient donc beaucoup d'obligations américaines... L'or a baissé, donc ils en ont profité pour vendre leurs obligations américaines et acheter de l'or avec ça. Les Saoudiens, ils ont fait autre chose, c'est qu'ils avaient peut-être des obligations américaines, mais ils ne pouvaient pas les vendre parce qu'ils seraient fait gronder par les États-Unis. Donc ils ont vendu, Nestlé, qui a baissé, ou le marché de Hong Kong, qui a beaucoup baissé, pour acheter avec ça les sociétés de Musk. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a eu toute une série... Les sommes étaient tellement gigantesques que pour la première fois, on a vu des mouvements de capitaux qui étaient de nature considérable, enfin énorme, qui avaient de l'effet sur la macroéconomie à cause d'une introduction en bourse.
Alors, ce que je te dis, c'est que le papier que tu m'as envoyé la semaine dernière, qui était vachement bien, dedans, il y avait une balance qui disait « voici... » ce qui a été vendu comme or depuis les États-Unis, les particuliers qui ont vendu cet or pour souscrire à l'IPO. Et les acheteurs ont été l'Arabie Saoudite. Et ils montraient la balance des paiements.
C'est possible, parce qu'il y a eu lieu là, parce que je l'avais lu, mais j'ai pas vu ça. Donc, mais ce qui est certain, c'est que si tu regardes, quoi, tu es allé à Adia, le grand fonds souverain d'Abu Dhabi. Tu avais probablement 15 ou 20% d'or dans tes comptes. Cet or, il a été multiplié par 5 depuis 4-5 ans. Donc, tu dois souscrire à une augmentation des États-Unis. Tu te dis, bon, le machin, là, c'est monté de 5 fois. Qu'est-ce qu'il est monté de 5 fois? Pas grand-chose. Donc, je vais vendre de l'or et je vais acheter le... Et à ce moment-là, dans les bilans, ce qui se passe, c'est que, comme il y a une comptabilité en partie double, ce qui se passe, c'est que les États-Unis vont recevoir le pognon pour souscrire à ça, le cash. L'or sera vendu et peut-être acheté justement par la Chine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce qui se passe, c'est que dans le fond, la Chine, si tu réfléchis en double comptabilité, la Chine à ce moment-là se retrouve avec plus d'or et moins d'obligations américaines. Et les États-Unis se retrouvent avec plus de pognon pour vivre au-dessus de leurs moyens, mais moins des actions qu'ils avaient. C'est-à-dire que les États-Unis vendent leur capital pour se maintenir consommant trop. Et que la Chine, elle dit, très bien, moi je vais prendre de l'or à la place plutôt que des dollars. Donc ça veut dire qu'on vient le vieux truc que j'ai toujours dit, c'est quand l'or part d'un pays, Il faut se barrer parce que l'or, il sait quelque chose que
et
vous
encore,
savez pas.
Quand tu dis la Chine garde de l'or, oui et non, parce que qu'est-ce qu'on a observé, et c'est une leçon qu'on vous a faite, et là on est à la fin de l'année, donc j'aimerais qu'elle soit acquise, que cette guerre du détroit d'Hormuz nous a appris quelque chose, c'est que les États-Unis ont perdu la main sur la marine. Et à partir du moment où ils ont perdu la mer, ça veut dire aussi qu'ils ont perdu ce privilège impérial qui était... On vous force à garder des obligations longues du trésor américain, parce qu'avec ça, vous pourrez acheter qui du riz, qui du blé, qui des travers de port. Aujourd'hui, la Chine se dit « Ok, visiblement, personne ne sait gérer le détroit d'Hormuz. Pourquoi je dois garder des obligations du trésor américain ?» Ce qui remet profondément en cause le saint-impérialisme du dollar. Et finalement, la Chine se dit « Même plutôt que de garder de l'or, est-ce que je ferais pas mieux d'acheter des travers de port directement et d'avoir directement une piggy bank pour mon riz, pour mon blé? Certes, c'est un coût, mais c'est aussi une capacité de non-fragilité, d'autarcie, voilà. Et donc de force à terme, parce que à terme, je ne dépends de personne.
Ce que dit Emmanuel, c'est très important, là, c'est que dans un monde où tout marche parfaitement, où il n'y a aucun frottement, où tout, vous n'avez pas besoin d'avoir des stocks, des inventaires, de produits, de matières
des granges,
premières.
Des silos avec du blé, des
trucs.
C'est vous chiant, vous avez
besoin.
Des bêtes dedans,
des,
ça brûle.
Des kilos de cuivre, des tonnes de cuivre, ça vous n'en avez pas besoin parce que finalement, vous pouvez l'acheter où vous voulez, puis c'est très rapide.
Vous gardez
livraison.
Une monnaie liquide, les obligations du trésor américain autrefois, bim bam, ou de l'or, bim bam.
C'était le stock dont vous aviez besoin pour acheter ce que vous auriez besoin. C'est ce qu'on appelait la période où il y avait les inventaires zéro, the zero inventory, qui a été... une libération de capital considérable, parce que à la place d'avoir le capital qui est gelé dans des stocks, tu peux l'utiliser à faire des usines, à payer les gens, etc. Donc, ça a beaucoup amélioré la liquidité dans le monde, ce zéro inventory. Et puis maintenant, tu te retrouves dans un monde qui est, où les gens se disent, mais dans le fond, puisque les bateaux peuvent ne passent plus, etc., il va falloir que je fasse des stocks chez moi. C'est-à-dire qu'il va y falloir immobiliser énormément de capital dans des stocks de riz, de cuivre, de pétrole, tout ça. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une prise en masse de capitaux importants qui a autrefois coulé librement, ce qui veut dire que les taux réels vont beaucoup monter.
Oui. Ah oui.
Donc, si vous voulez, si les taux réels montent beaucoup... Je vois pas comment la France s'en sort.
Ah, bon, alors ça, bon, ça, c'est une question.
Mais
et
ça
les États-Unis aussi.
Au
ouais,
les États-Unis, ils ont une banque centrale qui peut imprimer. Oui. Mais nous, on a notre dette dans une monnaie qu'on ne peut plus imprimer. C'est l'euro. Donc, on a un taux de change fixe, qui est une imbécilité, et on a abandonné la possibilité d'imprimer, ce qui est une autre imbécilité. Donc, dans les trois monnaies qui me paraissent en danger, la livre, le dollar, Et le franc, s'il existe, l'euro franc-français, là, c'est le franc qui est le plus en danger parce que c'est le plus imbécile. Ni l'Angleterre, ni les États-Unis n'ont abandonné leur monnaie, ni leur capacité d'imprimer.
Et au pire du pire, l'Angleterre, là, avec son changement de M. Keir Starmer à whoever is gonna come, chez les travaillistes, là, se résoudra à faire marcher la planche à billets. Donc, ils auront une inflation galopante, mais comme toujours, quand vous relancez la planche à billets, mais...
Leur monnaie se pètera à la gueule.
La monnaie se pètera à la gueule, il y aura au moins un choc de compétitif pour les exportations, pour ce qui peut à peu près tenir. Les Anglais pourront moins venir crapahuter en Espagne. Bon.
Donc, c'est-à-dire que pendant les 20 dernières années, l'utilisation de l'argent est devenue de plus en plus efficace et il était de moins en moins bloqué dans des tas d'endroits où il était bloqué avant, ce qui a fait baisser les taux réels. Mais maintenant, on voit bien que vous avez, quand vous êtes un gouvernement, vous avez deux besoins. Vous avez la croissance, l'économie, et puis d'être antifragile. Aujourd'hui, il va falloir que beaucoup de pays fassent des investissements énormes pour redevenir antifragile. Alors que la Chine, ça fait 20 ans qu'elle investit pour être à la fois compétente et antifragile. Nous, on va abandonner l'antifragilité parce que ça coûte du pognon et on va essayer de rester juste compétent.
Alors,
ça suffit pas.
Autre chose, et tu en as parlé tout à l'heure, le cuivre. Bah, le cuivre, a priori, devrait très bien faire dans cet univers. Bah, parce
On n'ouvre plus de mines et tout le monde va avoir besoin de cuivre pour faire de l'électricité.
Donc, a priori, ceux qui ont envie de regarder de ce côté-là, pourquoi pas, l'argent devrait faire bien un peu moins. Et l'or est soumis à...
Ben, si vous êtes l'or, vous avez ça, mais...
À la rotation de l'épargne privée qui va, se détourner des actifs libellés en dollars, donc rester en or, mais ça reste quand même...
L'or, si vous voulez, si on retourne en haut à droite, c'est-à-dire dans un boom inflationniste, ben, dans le boom inflationniste, ça marche très bien, alors toujours, hein. Donc, aussi curieux que ça paraît, si vous êtes certain qu'on repart en haut à droite, ce qui ne me paraît pas impossible à moi, il faut acheter de l'or sur les cours actuels.
Oui. Oui. Mais je ne sais pas si les banques ont terminé leur cercle d'assouplissement, là, ou pas.
Maintenant, elles vont être obligées de monter les taux, puisque l'inflation pète à la hausse. Elles ne peuvent plus baisser les taux, c'est fini.
C'est-à-dire que les États-Unis, depuis 36 mois, disaient « on va maintenir l'inflation sous la barre des 2%. » Ils sont à 4,6 et personne bouge. Et il y a un moment où something's got to give, quoi.
Il y a un moment où on va dire, écoutez, vous êtes gentil, mais avec une inflation à 4 ou 4,5, avoir des obligations qui me donnent du 4,5, c'est pas une très bonne idée, quoi. Vous me payez pas pour le risque du temps que je prends. Normalement, les obligations américaines et françaises devraient être à 6,5, pas à 4,5. Donc il y a beaucoup d'argent à perdre sur les obligations. Tout ça, ça paraît un peu technique, mais dites-vous bien, vous devez réfléchir à un truc, c'est... Vous êtes là, mettons que vous ayez des stocks de blé à vendre, hein, que vous avez, qu'on va avoir besoin, par exemple en Égypte, ils vont avoir besoin de blé, bon. Vous avez du blé à vendre, et on vous offre de le payer, soit en obligation française, soit en or. Lequel des deux... Vous prendrez. Ben, si vous répondez l'or, ben, vous n'en avez pas assez. C'est pas idiot, mais réfléchissez comme si vous vendiez quelque chose. Est-ce que vous voulez le vendre contre du papier monnaie, ouais, ce qui était une bonne idée de 1980 à 2020, ou est-ce que vous voulez le vendre contre de l'or? Ben, je crois que la plupart des gens, ils vont se dire, j'aimerais plutôt avoir des Napoléons si ça vous fait rien.
Oui, ça vous fait rien, personne. Oui.
Donc, réfléchissez non pas en termes de macroéconomie, mais en termes de vos préférences personnelles. Ben, aujourd'hui, il n'y a pas photo, quoi.
Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la Chine que tu as évoquée, parce que quand on regarde,
quand on regarde
les marchés, encore une fois, bon, il y a différents marchés, il y a celui de Hong Kong, et on en a parlé, je crois. Je ne sais pas si c'était l'Université d'Épargne, c'était peut-être une émission privée. Peut-être que la majorité de vous ne l'a pas vue. Mais la Chine a toujours fait très attention, quand il y avait des chocs compétitifs comme ça, de tenir son renminbi plus ou moins plat comme une crêpe. Et elle ne voulait pas le laisser filer. Or là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une hausse petite, mais de valorisation de la monnaie quand même.
4, 5, 6% depuis un an. Et alors, il se passe un phénomène auquel on ne s'attendait pas, mais qui est réel. C'est que le marché de Hong Kong est en baisse depuis un an, mais le marché de Shanghai est en hausse de 20-25% depuis un an. Donc, on regarde ça, et il y a des belles valeurs à Hong Kong. Hein. Il y a beaucoup de grandes valeurs comme Alibaba, etc., qui sont cotées à Hong Kong. Et donc, vous vous dites, mais pourquoi Hong Kong
sous-performe quelque
sous-performe à ce point-là? Alors, je suis en train de faire des tas de travaux pour essayer de... Mais ce qu'il y a de certain, c'est que si vous vous dites, dans le fond, la rentabilité à Hong Kong ou en Chine doit être la même sur le long terme, oui. Ben, les actions chinoises sont là et les actions de Hong Kong sont là. Donc, ce ne serait pas le moment de vendre un peu des actions chinoises là-haut pour racheter quelques actions de Hong Kong ici? Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais il y en a qui ont acheté Hong Kong et qui sont un peu fâchés parce qu'ils ont du Hong Kong.
Ah ben oui, ils ont du Hong Kong. Ben oui, ça, c'est exactement comme il y en a qui ont... Vous savez, dans l'Université de l'Épargne, on avait dit qu'il faut acheter l'Asie ex-Japon. Puis il y a eu une pété de hausse pas possible dans cet indice parce que les semi-conducteurs en Corée, à Taïwan, sont montés comme des fusées. Donc cet indice est monté. Donc,
oui, mais quelque part, Hong Kong n'en avait pas.
Hong Kong n'en avait pas. Il n'y a pas de valeur de Hong Kong dans le semi-conducteur.
Mais si tu regardes Tencent, c'est ça. Hein.
C'est une valeur Tencent, Alibaba, mais c'est des valeurs.
Elles sont à 10 fois leur EBITDA. Elles ont, quand tu les regardes structurellement, c'est des très belles valeurs.
C'est des très belles valeurs, mais c'est les valeurs de la bulle d'avant. Tu vois, c'est-à-dire que...
Oui, mais ça ne veut pas dire que ton argent est mal placé.
Ah,
parce
mais pas du tout, mais moi, je suis tout à fait d'accord.
Pour c'est des actions ricardiennes qui vont faire quelque chose dans la croissance.
Elle se débrouille très bien. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être le moment, comme il y a quelque chose qui se passe un peu incompréhensible...
Non, ce qui se passe d'incompréhensible, ce qui se passe d'incompréhensible, je te coupe la parole, c'est que la croissance chinoise, la consommation interne n'est pas au rendez-vous.
Et faut le dire vite.
Si, si, elle a baissé, elle a baissé. Si tu regardes les indicateurs, je les ai regardés la semaine dernière, ils ont baissé en consommation interne. Et ça, c'est la confiance. L'immobilier est reparti, l'immobilier à Hong Kong est reparti. La consommation des ménages, reste stagnante parce que, est-ce qu'ils ont eu peur avec ça, Hormuz? Est-ce qu'ils ont différé leur consommation?
Tu sais, bon. Je sais pas, tu sais, parce que là, je regarde les chiffres moi aussi. Et ce qui m'embête beaucoup avec tout ça, c'est que l'inflation est à zéro en Chine, ou quasiment. Elle est montée un peu récemment à cause du pétrole, mais elle est à zéro pour les produits chinois. Donc, si à la place d'être à zéro, l'inflation en Chine est à moins 2, mais qu'on le mesure mal, une consommation à plus 2, ça fait plus 4. Et donc... Quand je regarde quand tu vas à Shanghai ou à Hong Kong, à Shanghai, etc., t'as pas l'impression que les gens consomment pas, quoi.
Oui, oui.
Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être simplement parce que on nous met un taux d'inflation trop élevé pour déflater la consommation. Parce que quand tu vas en Chine, les prix baissent partout. Donc, là encore, j'ai un peu, par contre, moi, toutes mes mesures me disent que la Chine est en train de rentrer, est en train de rentrer dans le boom déflationniste, c'est-à-dire celui qui est en bas à droite, où il y a beaucoup d'argent à gagner.
C'est les valeurs d'efficacité, là.
Voilà, bah, les Tencent, l'Alibaba, etc. Donc, je me dis, c'est curieux, parce que les États-Unis sont en train peut-être de rentrer en haut à gauche avec l'Europe, et la Chine, qui a été en bas à gauche, c'est-à-dire dans une dépression déflationniste, tu sais, il fallait avoir que des obligations chinoises.
Et on en avait.
Et on en avait, beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'elle est en train de glisser en bas à droite. Et ce moment-là, c'est-à-dire que le grand marché haussier, ça va être la Chine, ça va pas être les États-Unis.
Ils ont un problème, encore une fois, cette consommation interne qui, on a l'impression, n'est pas au rendez-vous. Autre chose dont on se rend pas compte, mais le gouvernement chinois est quand même très proactif pour faire en sorte que les capitaux ne sortent plus et restent véritablement à l'intérieur. Bon,
c'est plutôt bon pour la bourse chinoise.
Oui, oui, mais on leur jette pas la pierre, mais je le fais remarquer. Et ils ont un problème de chômage chez les jeunes. Oui. Et ça, bon, c'est ça
ils ont un problème de chômage chez les jeunes parce que les Chinois, c'est curieux que ça paraisse, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, ils forment plus d'ingénieurs que le reste du monde mis ensemble. Donc, si tu veux, ils ont fait un effort d'éducation absolument gigantesque. Et du coup, ils ont maintenant des gens qui sont bien formés, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne trouvent pas de boulot.
Mais cela dit, tu es aujourd'hui, tu es l'Arabie Saoudite, tu es au Moyen-Orient, tu veux qu'on te construise des usines, des centres de données, voilà, vers qui tu te tournes. La Chine, a priori.
Si tu as besoin de routes, de ponts, d'hôpitaux, de tout ça, tu n'as qu'à voir, c'est la Chine, bien sûr.
Donc là, pour les demandes de reconstruction qui vont venir, et elles vont arriver...
Du Moyen-Orient, de l'Iran...
On espère,
il va falloir rebâtir l'Iran, il va falloir rebâtir le Liban, la Syrie...
Israël, ils le font tout seul, a priori.
Donc, tous les capitaux qui étaient dans le monde arabe et qui allaient se mettre dans les obligations françaises, ils vont avoir des tas de choses à faire à la maison. Donc, moi, où que je regarde, je me dis, il va y avoir une hausse des taux réels considérable. Et c'est ça qui me terrifie sur la Bourse de Paris. Parce que, sur la Bourse de Paris, sur le budget français. Parce que, déjà, c'est-à-dire que, si je fais des projections sur le budget, je me dis que, dans 5 ans, 90% du déficit ou 100% du déficit viendra des retraites et du service de la dette. C'est-à-dire que tout le déficit sera causé par des choses qui n'ont aucune rentabilité pour la France. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que payer les gars qui ne travaillent plus, c'est pas bien une bonne idée. Et payer les gars qui nous ont prêté de l'argent de l'étranger, c'est pas moi qui viens de le dépenser à Paris, c'est pas une bonne idée non plus. Donc, je me répète, mais je vois arriver une crise budgétaire en France. Je ne suis pas le seul. Il y a toute une série de gars qui poussent des cris partout sur le net. Considérable. Et je ne vois pas je vois même pas comment... Tu vois, c'est-à-dire que... Bon, je suis pas plus bête qu'un autre, mais je ne vois pas de solution technique à cette crise. C'est-à-dire que quand on ne pourra plus payer, vous savez quoi ? On ne pourra plus payer. C'est-à-dire, il n'y a pas de, on va faire semblant de payer, il y a, ben non, on pourra plus payer. Voilà, on pourra plus payer. Donc, tous ceux qui dépendent de subventions de l'État, ils vont se retrouver. C'est pour ça que je dis que c'est pas la peine de les, de forcer tous ces braves gens qui sont venus ici. À partir du moment où on pourra plus les payer, j'imagine qu'ils rentreront chez eux.
Alors, je voudrais faire deux remarques par rapport à ce que tu as dit. La première, c'est que dans un monde où il va y avoir une demande très forte de capital, le coût du capital va augmenter, forcément, d'où la hausse des taux d'intérêt. Et parallèlement à ça, on a des IPO, des introductions en bourse absolument gigantesques qui vont siphonner toutes ces demandes de capitaux, alors que par ailleurs, il y en a aussi besoin pour la reconstruction du Moyen-Orient. Qui va gagner? Je ne sais pas.
Et pour le développement du cercle
de Valérie Pierris. Donc il va y avoir une demande dans le monde à venir pour les capitaux, c'est-à-dire que le rentier qui a épargné va vraiment avoir le choix du roi à qui le prêter. A priori, devrait être bien rémunéré, ce qui va changer quelque part aussi les puissances, les forces. Bon, mais ce qui me pose aussi des questions sur ces grandes introductions en bourse qui sont tellement drainantes de flux qu'on peut se demander si tout le monde va y arriver. Enfin, ça, c'est pour un second temps.
Mais ce qui se passera, c'est que si la demande de capital augmente, ben, le prix du capital va augmenter, c'est-à-dire les taux d'intérêt. Et à ce moment-là, il faut qu'on arrive à un niveau où la hausse du taux d'intérêt, réel ou pas, va à la fois déclencher une hausse du taux d'épargne partout dans le monde, parce que tu es mieux payé, donc tu te dis, bah oui, je suis bien payé pour épargner, donc.
Oui, mais c'est-à-dire que si moi, en France, aujourd'hui, on me disait, plutôt que de t'acheter un nouveau casque pour écouteur, ton épargne que tu vas mettre en banque va te donner du 6%, je réfléchirais à deux fois.
Mais voilà, tu dis 6%, je peux aller voir. Et puis la deuxième chose qui va se passer, c'est que à 6-7%, il y a des tas de gens qui pourront plus justifier d'emprunter. Donc la demande à ce moment-là, ça va. Le capitalisme, c'est un système darwinien. Si tu n'as pas une rentabilité du capital suffisante, tu peux pas emprunter.
Dont les flops sur l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des opérations sur le Airbnb avec des taux plus ou moins zéro, en empruntant pour acheter, pour ensuite louer, avec une rentabilité qui était peut-être bord à bord, enfin peu de choses près. Et là, avec des taux qui pourraient monter à 6-7%, les gens vont se dire « Attends, bah, voilà, c'est plus du tout rentable entre les impôts, les machins, les trucs. »
Les sociétés immobilières cotées, dans le monde, partout dans le monde, leur performance a été désastreuse depuis 5 ans.
Oui, dès que tu montes les taux, tout ça, c'était sur un levier.
Et puis aussi, si tu veux, c'est que, oui, il y a le levier, et puis il y a le fait que ils ont bâti des trucs, certains d'entre eux ont fait des développements qui se vendent pas, parce que c'est trop cher. Donc, tu regardes les cours de bourse des sociétés immobilières, depuis 5 ans, ça a été un désastre un peu partout dans le monde. Donc, les gens qui m'expliquent qu'à Paris, c'est un marché spécial, ça me...
Encore une fois, comme disait, j'étais notre Stucky, je crois qu'il disait ça, Charles, la bourse, il faut savoir s'il y a plus d'idiots que d'argent ou plus d'argent que d'idiots.
Idiot, c'était ce bon Béat, oui. Béat Notz, mon mentor quand j'étais jeune. Mais, donc aujourd'hui, il va y avoir beaucoup moins d'argent et beaucoup plus d'idiots. Donc, vous devez vous mettre intellectuellement dans la position de vous dire, donc on va de mieux en mieux me payer si j'épargne. Donc, je me prépare à épargner plus et à le placer mieux. C'est ça, là, ce qu'il faut faire.
C'est vraiment le bon choix. Et alors, l'autre chose dont on parlait, c'était la bourse en Chine versus la bourse US. Et c'est intéressant de voir les deux mentalités complètement différentes, parce que je pense bien que le gouvernement chinois, de son côté, on n'a un peu rien à faire de ce qui se passe à la bourse de Hong Kong, qu'elles sont en bas. En revanche, quand M. Trump a signé le traité à Versailles, encore une fois, ce qui fait affairer à peu près toute personne ayant deux, trois notions d'histoire, la première chose qu'il a dit, stylo en main alors qu'il signait, c'était de dire « Petrol is going down, stocks going up ». Oui. C'est-à-dire que pour lui, véritablement, tenir la bourse, c'est absolument tout.
C'est ça, on est arrivé à un truc qui s'appelle... autrefois, il y avait le Gold Exchange Standard. Il fallait pas que... Et aujourd'hui, on a le S&P Exchange Standard, mais c'est n'importe quoi. Vous pouvez pas gérer un pays.
C'est pas ton économie réelle. La bourse, c'est quelque part un marché qui, normalement, dans le meilleur des cas, devrait montrer ce qu'est l'économie réelle. Mais
si on le manipule tout le temps, si les taux sont manipulés, si le taux de change est manipulé, si la bourse est manipulée, Ça me rappelle dans les grandes années du Japon, quand la bourse du Japon, quand il y avait la bulle au Japon, les grandes sociétés japonaises, les Daiwa et qui étaient les grands agents de change, se réunissaient et organisaient ce qu'on appelait le cercle des wagons. Tu sais, c'est-à-dire que comme quand les Indiens attaquaient des diligences, ils se mettaient en rond comme ça et tiraient sur les Indiens. Donc ils appelaient ça des price keeping operations, c'est-à-dire tu maintenais les prix. Bon, ben ça empêchait le marché de baisser jusqu'au moment où il a perdu 50%, quoi. Donc la simple idée que ces gens pensent que ils peuvent influencer la bourse et l'empêcher de baisser, c'est déjà terrifiant.
Mais alors, c'est terrifiant, et c'est d'autant plus terrifiant, et on l'a vu temps après temps pendant toute cette opération du détroit d'Ormuz, c'est que ça a fonctionné en plus, ces crétins.
Mais les price keeping operations de Japon, elles ont très bien marché jusqu'au jour où elles n'ont plus marché du tout. Donc, si tu veux, je vois très bien ça, c'est-à-dire que, bon, je suis un vieux routier, mais donc j'ai vu ça, on va maintenir la bourse, tu ne maintiens rien du tout. C'est-à-dire que c'est comme on va maintenir des taux de change fixes. Les taux de change fixes, ça se maintient jusqu'au moment où ça ne se maintient plus, quoi. Et donc, il y a toujours chez les hommes politiques l'idée que des prix fixes, c'est mieux que des prix variables. Parce que les prix variables, c'est une façon de les juger. Si la monnaie baisse, c'est que vous êtes mauvais. Ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Par exemple, la monnaie a beaucoup baissé au Japon, et l'économie japonaise va très très bien. Donc, il y a un désir caché chez tous les hommes politiques de stabilité. Et la stabilité, c'est la mort. Ils essayent d'empêcher les mouvements, et en empêchant les mouvements, ils créent des désastres. Et ensuite, ils te disent que le capitalisme ne marche pas.
Oui, en général. Mais ce que j'aimerais dire à la fin, c'est que, en réalité, le marché américain donne l'impression d'une grande vivacité, parce qu'on a eu ces introductions en bourse très capitalistiques, avec beaucoup de fonds. Mais le S&P, dans son ensemble, n'était pas si bullish que ça. Le dollar n'est pas...
C'est comme si, comme ça, mais enfin, il se passe pas grand-chose sur les monnaies depuis un instant. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des gens qui interviennent sur les monnaies, parce qu'il n'y a aucune raison que la livre sterling soit au même cours vis-à-vis de l'euro qu'il y a un an, qu'il y a deux ans, qu'il y a trois ans. Donc, il y a des gens qui bidouillent. Je le sais. Donc, partout, vous avez des trucs, on bouge pas. Tu sais, dans la façon dont les gens mesurent le risque, ce qui est une erreur considérable, dont j'ai souvent parlé d'ailleurs, c'est quelque chose qui est volatile, qui bouge beaucoup, c'est risqué. Et quelque chose qui n'est pas volatile, c'est pas risqué. Donc, ils essayent d'empêcher les trucs de bouger pour que ton capital aille vers les trucs non risqués, soi-disant. Et nous, on dit, c'est pas la volatilité qui détermine le risque, c'est la possibilité que vous soyez jamais remboursé. C'est pas du tout la même notion du risque. Donc, la théorie moderne du risque dans les portefeuilles, c'est que si c'est volatile, c'est risqué. Et donc, la tendance de tous les gouvernements, c'est d'empêcher ces volatilités pour forcer les gens à aller vers les trucs non risqués qui sont les trucs gouvernementaux. Donc, pour moi, on est gouverné par
c'était quoi déjà? C'était « je hais les mouvements qui déplacent les lignes ».
Je hais les mouvements qui déplacent les lignes, voilà.
C'est un petit peu le... C'est mais oui, parce que le tort des politiques en général, c'est de vouloir contrôler. Et tu peux contrôler que des choses... Enfin, tu contrôles beaucoup mieux des choses qui sont ancrées.
Ancrées, tu te dis « ça bouge pas ». Donc, je suis favorable au taux de change fixe. Et puis, par exemple, quand ils pètent la gueule, tout le monde est ruiné, comme en Asie en 98-99. Donc, surtout essayer d'aller vers des pays où... on laisse les gens tranquilles.
Oui, et donc...
Tout ça, bon, donc c'était une leçon un peu longue, elle était à la limite, si j'ose dire, de l'université de l'épargne, beaucoup, mais j'espère que ça aura plu aussi aux anciens de l'Institut des Libertés. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que nos libertés, depuis 15-20 ans, ont été capturées par des gens qui nous empêche de prendre nos décisions librement dans un marché ouvert, qu'on a coincé les gens dans des trucs qui marchent pas et que ça peut pas bien se terminer. Donc, comment ça s'appelait l'Institut des Libertés? C'était pas par hasard, c'est parce qu'on aimait les libertés. Mmh. Et la liberté de faire ce que je veux de mon pognon, c'est quand même une des libertés les plus importantes.
C'est une des libertés les plus importantes et ça renvoie à une notion qui est souvent pas comprise mais que Charles appelle le « fuck you money », qui n'est pas un terme très élégant mais qui veut dire en gros « j'ai suffisamment d'argent pour de
vivre
côté
librement.
Pour être libre ». Et après tout, n'est-ce pas...
C'est tout ce que je vous souhaite, hein,
voilà,
d'atteindre le « fuck you money ».
de pouvoir avoir la liberté de dire, écoutez, non, finalement, je vais voter avec mes pieds, je vais partir de ce pays ou je vais aller ailleurs parce que j'ai...
Ou je vais mettre mon argent dans un pays là-bas et je vais vivre ici parce que je suis bien en France, mais mon argent, il sera pas en France, il sera là-bas.
Et il sera pas capturé par tout un tas d'ectoplasmes qui ne cherchent qu'à vivre de vos bonnes rentes à vos dépens, parce qu'encore une fois, l'État n'est jamais que ce mythe qui prétend vivre sur vous à vos dépens, c'est jamais qu'un parasite, l'État ne crée rien, il ne vit que de vos transferts, et donc à partir de là, c'est vous qui le faites vivre. Donc on en attend toujours quelque chose, mais dites-vous bien que si on vous donne quelque chose, c'est qu'on l'a pris à quelqu'un d'autre, ou qu'on vous l'a pris à vous et qu'on vous l'a redonné, en faisant énormément d'efforts pour vous expliquer que c'était beaucoup mieux. On vous a pris 100, on vous a redonné 30, et quand même, attendez.
Et vous devez dire merci.
Et vous devez, attendez, quand même, c'est incroyable, hein. Donc voilà, tout en s'étant payé entre-temps des France Télévisions et de veux-tu et du voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. On a essayé de faire de notre mieux par ces grandes chaleurs qui touchent la France actuelle.
Et parce qu'on arrive à des moments, vous savez, il y a des moments où c'est simple. Bon, par exemple, pendant un grand moment, il fallait avoir de l'or et des actions, c'est ce qu'on avait, donc tout allait bien, on était contents. Et puis maintenant, on est peut-être en train de changer, peut-être pas, mais enfin, on commence à voir. Et les moments de transition, c'est les plus difficiles.
Ah bah toujours dans la vie, bah bien sûr. Bah oui.
Et c'est
donc l'adolescence. Quand on change, c'est pas agréable.
Oui, bah oui.
Moi, t'as la ménopause aussi, et alors je rigolais, il y avait une fille qui disait, je comprends pas pourquoi on n'envoie pas les femmes ménopausées sur le détroit d'Ormuz. Nous, on en a rien à foutre, on dort jamais, de toute façon, tout le monde nous énerve. Moi, je suis prête à buter absolument n'importe qui. Je peux conduire absolument n'importe quoi. Je peux vous réparer aussi n'importe quoi étant mère de 4 enfants. Et de toute façon, mon mari respire trop fort.
C'est exactement ça.
Donc, envoyez-nous.
Envoyez les femmes, là, boum.
Les femmes ménopausées.
Vous verrez les types, les arabes, du coup, courir en marche arrière à fond la caisse. Là.
Voilà. De toute façon, on ne peut plus blairer personne.
C'est très voilà. Bien ça.
Bon, bah écoutez, on vous dit à très bientôt et on vous embrasse. Merci.